Il est 6h14, Yaël Gauz est à mes côtés, chef du service politique de France Inter. Bonjour Yaël.
Bonjour Mathilde,
et
bonjour à tous.
Et nous avons deux invités ce matin, Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Nous l'aurons en ligne dans quelques minutes. Avec nous en studio pour le moment, Jérôme Rivière, bonjour.
Bonjour.
Vice-président du parti Reconquête d'Éric Zemmour, député européen. Les 42% de Marine Le Pen, pour vous, c'est une défaite ou, comme elle le dit, une éclatante victoire?
Écoutez, j'ai fait, comme Éric Zemmour, appel à voter pour elle entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et il y a 6 mois, j'étais le patron des députés RN au Parlement européen. Donc c'est une immense déception. C'est avec une très grande déception que j'ai appris ce score. Et je dois avouer que c'est un peu indécent de la part de Marine Le Pen d'évoquer une victoire éclatante quand des millions de Français ont placé la totalité de leurs espoirs d'échapper à un second quinquennat d'Emmanuel Macron en votant pour elle. Ça, malheureusement, ça conforte ce que j'avais imaginé, c'est les raisons pour lesquelles je l'avais quitté, qu'elle n'était pas en mesure de gagner cette élection présidentielle. Vous savez, on va faire le bilan, mais en 50 ans de création du Front National, quel bilan ? Effectivement, de beaux scores aux élections présidentielles, mais pas de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, quasiment pas d'élus régionaux ou départementaux, aucun département, aucune région, une grande ville, Perpignan, mais acquise sur la personnalité de Louis Alliot.
Comme Éric Zemmour, en quelque sorte, que tant qu'il y aura le nom Le Pen, la victoire sera impossible?
Mais là, clairement, elle en a fait la démonstration, encore une fois, hier. Donc bien sûr, il y a le Rassemblement National, les militants font un effort considérable. On voit bien que cet effort permet à Marine Le Pen d'avoir 2,5 millions d'électeurs supplémentaires. Mais c'est insuffisant. Et quand on fait de la politique, l'objectif n'est pas de faire un beau score, mais l'objectif est bien de gagner.
Vous avez mis un bulletin Le Pen dans l'urne, vous, hier?
Moi, j'ai mis un bulletin Le Pen dans l'urne hier.
Comme 10% des électeurs d'Éric Zemmour, d'après notre enquête Ipsos, ouais. Comment vous expliquez ça? Elle ne fait que 73% des électeurs de Zemmour?
Parce que pendant la campagne, elle a clairement peu parlé aux électeurs d'Éric Zemmour. Elle a changé beaucoup de position. Elle s'est adressée essentiellement, comme en 2017 d'ailleurs, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Elle ne les a pas assez traités, entre guillemets?
Elle n'a pas traité le Bloc National. Elle n'a pas traité le Bloc National, très clairement. Elle essaye de faire une alliance un peu contre nature, en faisant appel à des électeurs qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon, qui avait des propos très différents, parlant notamment à une communauté qui est la communauté musulmane de France, qui a massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Elle a parlé alors précédemment de l'interdiction du port du voile, elle a changé. Donc son discours était très confus, et ça donne ce résultat où un certain nombre d'électeurs n'ont pas souhaité porter leur bulletin de vote sur Marine Le Pen au deuxième tour.
Comment ça va se passer pour les législatives, hein, puisque Éric Zemmour, votre patron, a abordé la question dès hier soir en disant que la coalition n'était pas une option, que c'était une nécessité, un devoir, qu'il faut se rassembler les droites. Mais est-ce que vous êtes en position de force pour négocier des investitures avec les 7% du premier tour d'Éric Zemmour?
La réalité, c'est que ce n'est pas le score électoral des uns et des autres qui permet d'être en position de force ou non. S'il n'y a pas de coalition de ce fameux bloc national, Union des droites, enfin en tout cas le bloc de Dupont-Aignan à Marine Le Pen, en passant par Éric Zemmour, et les Républicains qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, s'il n'y a pas une coalition qui se présente de façon homogène pour proposer aux Français une alternative, un programme différent de celui d'Emmanuel Macron, ce sera une défaite absolue de ce camp national, et il faudra attendre une décomposition encore plus grande pour proposer un projet dans 5 ans.
Mais une coalition emmenée par Marine Le Pen, du coup.
Mais non, il n'y a pas besoin de choisir un chef de file, c'est pas l'élection présidentielle, c'est une coalition pour emmener une majorité ou autant de députés que possible pour éviter de donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. C'est là que Marine Le Pen fait une erreur. Elle veut se placer tout de suite en chef de file. Quand on vient de perdre pour la troisième fois consécutive une élection présidentielle, on ne demande pas la place de chef de file. On aborde modestement les Français en leur disant, écoutez, on est un certain nombre à pouvoir peut-être offrir une opposition à Emmanuel Macron. C'est ce qu'elle ne fait pas.
Que va faire Éric Zemmour? Est-ce qu'il sera candidat aux législatives et où?
Écoutez, je ne sais pas encore s'il sera candidat aux élections législatives.
C'est fou quand même, il a peur de perdre. Quel est le problème de
Zemmour? Non, mais je pense, moi, à titre personnel, que l'élection importante, la prochaine élection qui permettra de faire émerger un chef de file, c'est l'élection européenne. Et comme je vous le disais à l'instant, ce combat législatif ne doit pas être un combat de chef de file. Ce doit être un combat de projet pour faire émerger cette grande coalition.
Et donc il se planque un peu avec Zemmour pendant 2 ans et on reverra aux européennes?
C'est pas planqué, on a un immense travail à faire. On l'a l'a rappelé hier, c'est un nouveau parti, on a à peine 6 mois Reconquête, mais déjà bientôt 125 000 adhérents. Donc il faut travailler, présenter un projet, expliquer ce que sera cette coalition nationale. Mais c'est pas du tout se planquer que de ne pas aller nécessairement à un scrutin. Encore, peut-être y va-t-il, je ne sais pas à cet instant s'il est candidat ou non à l'élection législative.
Vous parliez justement de la suite et de la coalition. Est-ce que l'ennemi de la coalition, c'est pas l'argent, le nerf de la guerre? Puisqu'on sait que pour vous, Reconquête, vous êtes nouveau et qu'il faut au moins avoir 50 candidats faisant au moins 1% des voix, c'est très précis, pour pouvoir accéder au financement de la vie politique par l'État. Vous êtes tout neuf, vous n'avez pas ce recul-là, cette expérience-là. Quel intérêt avez-vous à vous fondre d'entrée de jeu avec le RN?
D'abord, notre parti, à la différence de tas d'autres partis, n'est pas endetté. Donc nos militants, nos adhérents ont fait preuve d'une grande générosité. Et le parti Reconquête part avec des finances et des coffres électoraux bien remplis.
Contrairement au parti pauvre du RN, comme le dit Marine Le Pen, nous sommes un parti pauvre.
C'est pas un parti pauvre, c'est un parti endetté. C'est 25 millions d'euros de dette, donc c'est considérable. Les Républicains, n'ayant pas passé la barre des 5%, se retrouvent aussi avec une dette très très importante. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un handicap, la façon dont le financement public est réparti, c'est-à-dire avec cette nécessité de présenter un maximum de candidats au premier tour, c'est un obstacle. Mais je ne peux pas imaginer une seconde que ce soit uniquement en fonction de l'argent que raisonnent les partis politiques. C'est une question de conviction et de nécessité de proposer une alternance au projet d'Emmanuel Macron.
Merci Jérôme Rivière, député européen et vice-président du parti Reconquête. Vous étiez l'un des deux invités de France Inter du 5-7 ce matin. Voici maintenant notre deuxième invité. Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
Vous êtes présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, députée PS du Tarn-et-Garonne. Même question qu'à Jérôme Rivière. Qu'avez-vous fait dans l'isoloir hier?
J'ai voté pour Emmanuel Macron, mais je l'avais annoncé très clairement. Et ce que je constate, c'est que la gauche s'est beaucoup mobilisée pour que le 24 avril, la République gagne. Nous avons été très clairs, très très clairs. Il était indispensable que le vote du 24 avril signe la victoire, en tout cas la préservation de la République.
Donc vous êtes soulagée?
Je suis soulagée, mais pas satisfaite, parce que on voit bien aujourd'hui que l'extrême droite progresse dans le pays, puisqu'il y a quasiment plus de 25 départements où il est en tête, alors qu'en 2017, l'extrême droite était en tête dans 2 départements. Donc on voit bien qu'il y a une progression extrêmement importante, on voit bien qu'il y a une fracture, et ça, pour nous, avoir une telle fracture dans notre pays entre les pôles urbains et les campagnes, c'est inacceptable. Nous l'avons dénoncé dès 2017, dès 2018, nous avons porté beaucoup de propositions à l'Assemblée nationale en direction de la résolution de ces fractures, et je constate que le président élu n'a pas entendu ce message, et en tout cas a mené une politique qui a accentué ces fractures.
Pardon Valérie Rabault de vous avoir interrompu, dans votre département, le Tarn-et-Garonne, c'est Marine Le Pen qui vire en tête, 52% chez vous contre 48% pour Emmanuel Macron.
Mais
ça vous a
surpris? Mais le Tarn-et-Garonne ne fait pas exception à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les fractures que vous observez entre les pôles urbains et les communes qui sont plus à la campagne se reflètent aussi en Tarn-et-Garonne. Dans ma circonscription, le président élu fait 51,2%, essentiellement grâce aux communes de plus de 3000 habitants.
Vous avez entendu la main tendue d'Emmanuel Macron hier soir. Ce vote m'oblige, a-t-il dit. J'en suis le dépositaire. Je sais ce que je vous dois à vous, à ceux qui ont fait barrage. Et il dit, dans son discours devant la Tour Eiffel, son projet sera humaniste, républicain, social et écologiste. Vous y êtes sensible ou ce ne sont que des mots?
D'abord, je ne sais pas ce que le président élu a en tête ou pas en tête. Moi, j'ai observé ce qui s'est passé pendant 5 ans. Nous n'avons jamais été entendus. On voit aujourd'hui que les jeunes n'ont manifestement pas voté majoritairement, en tout cas se sont détournés du président élu. Qui a proposé en premier un minimum jeunesse? C'est nous, ça a été le fait dès juillet 2020, lorsque la crise sanitaire a frappé la jeunesse en priorité. Il y a 23 pays dans l'Union européenne sur les 27 qui propose un soutien aux jeunes. La France fait partie des 4 pays qui ne proposent rien. Ça, ce sont des choses très concrètes que nous avons mises sur la table. Est-ce que la majorité du président de la République les a acceptées? Non. À chaque fois, elle les a refusées. Des exemples comme ça, je peux vous en donner des centaines. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il y a un combat qui s'engage aujourd'hui pour les législatives. Lorsque j'entends certains parler d'un troisième tour, je ne suis pas d'accord. Chaque élection a sa propre dynamique. Et je ne suis pas d'accord pour une autre raison, c'est que on reproche au régime présidentiel d'être trop vertical et dans le fond d'être articulé autour d'une personnalité qui emporterait tout. Les législatives, c'est le contraire. C'est la capacité à faire en sorte que toutes les nuances, les opinions puissent être représentées et les territoires. Parce que les législatives marchent sur deux jambes, à la fois sur un projet national et sur un ancrage territorial. Donc, et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette dynamique qui soit lancée, bah, évidemment, dès aujourd'hui.
Donc, vous pensez que ça peut être possible qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité le mois prochain?
Nous, on va se battre pour qu'il y ait une majorité progressiste, républicaine, écologiste, socialiste, qui puisse s'installer à l'Assemblée nationale, qui puisse porter ce message des territoires. Enfin, franchement, personne ne peut être satisfait de la fracture qui s'installe et qui grandit dans notre pays, que ce soit une fracture territoriale, que ce soit une fracture face aux inégalités qui existent. Franchement, que voulez-vous que les habitants des territoires ruraux entendent? On leur dit, vous prenez votre voiture pour travailler. Il y en a 17 millions en France qui n'ont pas d'autre choix que prendre leur voiture pour aller travailler. Et on les accuse, dans le fond, d'être... on les accable de taxes qui ont été votées dès 2017, que nous avons réussi à faire bloquer. Je prends un exemple. Il faut qu'il y ait des solutions alternatives. Tous ces messages-là doivent être portés au travers du combat des législatives et dès aujourd'hui.
Vous serez candidate sous étiquette socialiste?
Mais je serai candidate. Moi, je suis présidente d'un groupe qui a été celui qui a le plus travaillé à l'Assemblée nationale. Nous sommes celui qui avons signé le plus d'amendements par député, qui avons permis de faire en sorte que, par exemple, les 12-15 ans ne soient pas inclus dans le pass vaccinal, ce qui les aurait privés de sport.
On a compris, ça c'est le bilan, mais la suite c'est quoi? Vous entrez en négociation avec les Insoumis pour avoir une étiquette gauche unique? Comment vous faites? Puisque Anne Hidalgo a sombré à 2% à la présidentielle, faut en tenir compte pour vous
oui,
aussi
mais
pour la suite.
Je veux bien que vous nous rameniez toujours à une élection qui vient de se passer. Chaque élection a sa dynamique propre. Vous savez, moi je suis d'un territoire, la région Occitanie, où la Carole Dalga, la présidente, a été la mieux élue de France. C'est pas du tout ce que donnaient les sondages lorsque l'élection a débuté. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. En Occitanie, nous avons 49 circonscriptions. Eh bien, je compte bien que nous puissions maintenir celles que nous avons, bien entendu, et en gagner d'autres.
Donc le PS va aller aux législatives sous sa propre étiquette PS, pas avec les Insoumis, pas avec la gauche peut-être réunie.
Il y a des dynamiques de territoire, c'est-à-dire que un département,
il y a des investitures nationales,
n'a pas la même configuration qu'un autre département, une autre circonscription. Encore une fois, l'objectif, c'est effectivement de préserver la République. Il y a des territoires qui sont menacés par l'extrême droite, évidemment qu'il faut pouvoir avoir une dynamique et s'entendre. Mais encore une fois, nous avons des valeurs à défendre, nous avons un projet à défendre, et nous comptons bien les défendre dans ces élections législatives.
Pensez-vous sincèrement qu'il y aura cohabitation in fine en juin pour Emmanuel Macron?
Je souhaite qu'il puisse y avoir une majorité, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, de gauche, écologiste, socialiste, communiste, vous l'appelez comme vous voulez, la plus forte possible, pour que ces fractures qui s'observent, ces inégalités qui abîment notre pays, puissent rapidement être résorbées.
Et vous résisterez aux sirènes de la Macronie? Je dis ça parce que depuis le début de l'aventure Emmanuel Macron en 2017, régulièrement, votre nom est cité par des ministres ou des proches d'Emmanuel Macron pour vous faire rentrer au gouvernement. Est-ce que c'est quelque chose...
C'est vrai, je l'entends comme vous.
Vous le confirmez?
Non, mais je l'entends comme vous. J'ai eu des propositions en 2020 que j'ai refusées, je les ai toujours refusées. Donc je veux bien qu'on raconte beaucoup de choses sur mes velléités, mais moi je suis très claire sur ma ligne, je suis présidente du groupe socialiste apparenté, j'ai porté des combats. Encore une fois, je vais le redire, mon groupe est celui qui a signé le plus d'amendements par député. Nous avons été ceux qui avons initié le référendum d'initiative partagée pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris. Ce référendum, il a été écrit dans mon bureau.
Merci.
C'est un des combats que nous avons menés et que nous continuerons à mener.
Merci Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, députée PS du Tarn-et-Garonne. Et merci à vous, Yael Gauze. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Partez pas trop loin, Yael.
France Inter.